Une nouvelle vie commença, dont Claude s'était volontairement exclu. La mère et la fille devinrent tout l'une pour l'autre. Dominique promenait la petite dans son landau. Elle allait au jardin du palais royal, s'installait sur un banc, asseyait l'enfant sur ses genoux et lui montrait le monde. Les passants s'attendrissaient au spectacle d'une maternité si heureuse. La jeune femme se demandait pourquoi le premier venu regardait Épicène avec plus d'affection que son propre père. À l'appartement, elles jouaient ensemble pendant des heures. La petite était exceptionnellement éveillée. Elle comprenait tout et éclatait de rire à la moindre occasion. « Tu es du bonheur, toi », disait Dominique. Quand Claude rentrait, Épicène lui tendait les bras en gazouillant. « Ta fille te réclame », traduisait l'épouse. « Tu es gentille, je n'ai pas le temps ». Dominique se demandait à qui s'adressait ce « tu es gentille ». La petite fit très vite ses premiers pas. Comme Claude, assis sur le canapé, compulsait des dossiers, la mère embusquée derrière la porte du séjour dit à l'oreille de l'enfant « marche jusqu'à papa ». Épicène mit un pied devant l'autre, avec la vaillance d'un soldat et, arrivée devant son père, poussa un cri de joie en s'applaudissant elle-même.
« Tu ne vois pas que je suis occupée ?»
dit-il à l'enfonçonne d'un ton rauque. « Mais elle marche !» protesta Dominique.
« Bravo, c'est bien !» dit-il, comme il aurait sommé de lui fiche la paix.
Le soir même, Claude déclara à sa femme qu'il voulait un autre enfant. « Il n'en est pas question, » répondit-elle.
« Pourquoi ?»«
Comment cela, pourquoi ? Tu as oublié combien j'ai souffert ?
Plus jamais je ne tolérerai une douleur pareille. »
Elle se garda d'ajouter que, vu son absence de fibre paternelle, elle voyait encore moins pourquoi risquer à nouveau de mourir. Il entendit que sa décision était sans appel. Par la suite, elle réfléchit à cette demande incompréhensible de son mari. À l'évidence, il n'aimait pas sa fille. Était-il jaloux d'elle ? Il semblait que non. Il aurait pu éprouver cette jalousie si Dominique lui avait témoigné moins d'amour. Mais c'était lui qui était moins tendre que jamais. Il avait l'air déçu d'Épicène. Un jour, elle lui demanda s'il aurait préféré un garçon.
« Absolument pas », répondit-il.
Il ne mentait pas, c'était évident. « Alors comment peut-il être déçu pour notre fille ?» s'interrogeait-elle. Épicène avait toutes les qualités qu'on pouvait rêver chez son enfant, affectueuse, belle, intelligente, vive, joyeuse. S'il ne l'aime pas, il n'aimera aucun enfant que nous aurions ensemble, comprit-elle. Dominique pensait souvent au gentil garçon dont elle était tombée amoureuse 4 années auparavant. Qu'avait-il pu lui arriver pour qu'il change à ce point ? Elle ne doutait pas que la métamorphose provint de son travail. Tant de responsabilités, tant d'angoisses, avec à la clé une réussite professionnelle prodigieuse. « Il n'y a rien à regretter », songeait-elle. « Il faut se réjouir de son succès, dont il est si fier, quoi qu'il en coûte. Il a voulu tout ça, et il m'a choisi pour être à ses côtés. » Elle s'isolait parfois avec le flacon de Chanel numéro 5 qu'elle n'osait plus porter, et respirait le parfum du temps où l'amour l'enivrait. À l'âge de 5 ans, Épicène sut qu'elle n'aimait pas son père. Ce ne fut pas une révélation, mais la première formulation d'une vérité qui avait germé en elle 1 ou 2 années plus tôt. Ce qui lui mit la puce à l'oreille fut, comme souvent lorsqu'il s'agissait d'une découverte intellectuelle, une conversation avec sa mère. Celle-ci venait la chercher chaque jour à l'école maternelle et elles rentraient ensemble à pied à la maison en bavardant. Maman demandait ce qu'elle avait fait et la petite racontait les dessins, les gommettes, les chansons et les jeux. L'entretien se terminait toujours par cette question d'Épicène.
« Est-ce que papa est là ?»«
Non. » Cette réponse procurait immanquablement à l'enfant un plaisir qu'elle cachait. Elle sentait qu'il eût été impoli de montrer sa joie. Mais elle se réjouissait de savoir qu'à l'appartement régnerait la douce tranquillité du monde sans papa. Dominique s'y trompa, qui perçut du chagrin dans la simulation de sa fille. Un jour, elle crut nécessaire d'expliquer « Tu comprends, papa travaille. » Il a réussi à créer une société formidable. Il emploie beaucoup de gens. Il ne faut pas lui en vouloir de ne pas avoir plus de temps pour jouer avec toi. Maman était-elle dupe? Il semblait que oui. On la laisserait dans son illusion. Car enfin, comment Épicène aurait-elle pu regretter de ne pas passer plus de temps avec cet homme irascible qui n'ouvrait la bouche que pour tenir des propos désagréables? Elle se rappelait une époque lointaine où la présence de son père provoquait encore en elle une attente. Quand il aurait fini ses occupations, il allait la prendre dans ses bras, lui sourire. Et puis un jour, elle avait compris que son espoir n'était pas fondé et elle n'en avait éprouvé aucune peine. Ce personnage ne voulait pas d'elle, et elle ne voulait pas de lui non plus. Cela tombait bien. Il n'était jamais là ou si peu. Maman occupait une place colossale. Elle était omniprésente. Belle et bonne, elle l'aimait. Le monde lui allait. Un après-midi, alors qu'elle rentrait de l'école ensemble, maman eut un air heureux pour lui annoncer « Tu vas être contente, ma chérie. Papa est à la maison. »
« Il n'est pas à son travail ?»
interrogea l'enfant. « Non, on repeint son bureau, alors il a emporté ses dossiers à l'appartement. Est-ce que ça te fait plaisir ?»«
Très. »
C'était la première fois qu'un mensonge lui coûtait tant d'efforts. Maman n'y vit que du feu. Tandis qu'Épicène mangeait son goûter à la cuisine, elle essaya d'ignorer la voix de son père qui parlait au téléphone avec quelqu'un dans la salle de séjour. Il lui fut, hélas, impossible de ne pas remarquer qu'il avait abandonné son ton habituel pour s'adresser à l'inconnu. Quel charme, quelle chaleur, de fréquents éclats de rire. Comme papa aimait ce Gérard. J'espère vous revoir bien vite, Gérard. Mes amitiés à Patricia. Au revoir, bonne journée. Il raccrocha. Mon chéri, nous sommes rentrés, dit maman. Pas de réponse. Soudain, Épicène vit apparaître son père devant elle. Il la regarda avec tant de contrariété qu'elle eut du mal à ne pas s'étrangler avec sa bouchée de béhenne. Sentant que sa présence dérangeait, elle fila dans sa chambre dont elle ferma la porte. Elle s'assit sur le lit et dans sa tête, elle entendit la voix intérieure dire « Je n'aime pas papa ». Le savoir était une chose, le formuler changeait la donne. Malgré le calme et l'absence d'étonnement, les mots produisaient un effet considérable. La révélation accédait à une réalité supérieure, elle devenait un monument de l'esprit. « Je n'aime pas papa ». Même le son grotesque « papapa » déterminait l'énormité du constat. Désormais, la vie serait différente. Bien qu'Épicène n'éprouvât aucune honte, elle sut qu'il faudrait garder pour soi ce « papapa » comme un dogme que le monde n'était pas prêt à recevoir. Pourquoi avoir des remords de ne pas aimer qui ne l'aimait pas? La question ne méritait aucun état d'âme. Bizarrement, maman aimait papa. Elle ne le lui avait pas dit, mais cela se voyait, se sentait, s'entendait. Maman avait pour s'adresser à papa une voix pleine de déférence, des yeux intenses et des gestes choisis. Papa ne remarquait pas ses manières qui ne partageaient pas son trouble. Si Épicène avait dû formuler le sentiment de son père pour sa mère, elle eût dit qu'il la supportait, à condition qu'elle parle peu et qu'elle existe le moins possible. Et elle, est-ce qu'il la supportait? Pas sûr. Les rares fois qu'il lui disait quelque chose, c'était « Tu es insupportable ». Épicène était insupportable quand elle jouait au salon, quand elle chantait dans sa chambre, quand elle ne mangeait pas, quand elle mangeait, quand elle manifestait de l'enthousiasme. Maman n'osait pas prendre la défense de sa fille. Elle attendait que papa s'en aille et disait « Papa est énervé par son travail » ou « Papa est fatigué ». L'enfant opinait. Elle aurait voulu répondre à sa mère que cela n'avait pas d'importance. Pour ce qu'elle se souciait de ce personnage, il pouvait lui dire n'importe quoi. Si elle ne lui tenait pas ce langage, c'était parce qu'elle sentait que maman en aurait été offensée. Elle se demandait si tous les hommes étaient semblables à son père. Quand elle entra au CP, Elle eut une amie en la personne de Samia, la seule de sa classe qui ne poussa pas des cris d'épouvante hilare à l'annonce de son prénom. Samia l'invita à dormir à la maison. Ce fut une expérience stupéfiante. Chez Samia, rien n'était comme chez elle. Elle avait des frères et des sœurs innombrables. Dans son appartement, il y avait tellement de gens qu'elle mit du temps à identifier ses parents. La mère de Samia préparait continuellement un délicieux thé très sucré. Quant au père, il attrapait sa fille dans ses bras et l'embrassait avec des paroles d'affection à n'en plus finir. Ensuite, il disait « Toi, tu es Épicène, l'ami de ma fille. Tu es ici chez toi. » Cet homme était aussi chaleureux et aimable que papa était glacial et odieux. D'ailleurs, il y avait chez Samia beaucoup d'autres hommes, tous aussi différents de papa que possible. Épicène avait sa réponse. Non, les hommes en général n'avaient rien à voir avec son père. Pourquoi n'avait-elle pas, à l'exemple de Samia, des frères et des sœurs? Elle interrogea à ce sujet maman, qui parut affreusement embarrassée et qui dit après une longue réflexion « C'est compliqué. Est-ce que tu aurais voulu avoir un frère ou une sœur ?»« Non. » Maman sembla soulagée, ce qui était le but de la petite. Elle avait menti, bien sûr. Quand Samia lui racontait sa fratrie, quand elle la voyait parmi cette tribu d'enfants, elle trouvait cela formidable. Il devait y avoir du papa derrière ce mystère.